Je vais te tourner avec moi dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Nous lirons ensemble les versets 38 à 41. Deux Rois, chapitre 4, versets 38 à... Bon, on va aller jusqu'à 44. Verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et y cueillit des coloquintes sauvages. Donc, des coloquintes, c'est quoi? C'est des concombres. Vous dites des concombres ici, non? Des concombres. Oui. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu! » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Serre à ces gens qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal, Chalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et 10 épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? » Mais Élisée dit, « Donne à ces gens qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera. » Et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Et ça nous rappelle le passage de Jean, chapitre 6, verset 12, la multiplication des pains qui avait été faite par Jésus. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous voulons plonger nos regards dans ta parole ce matin. Seigneur, merci parce qu'elle est vivante. Merci aussi parce qu'elle correspond à la vérité, pleinement à la vérité. Et nous voulons, Seigneur, que ce matin, tu nous instruises en tant qu'Église et en tant aussi qu'individu. Nous voulons, Seigneur, qu'en tant que communauté, nous voulons grandir, nous voulons aller de l'avant. Et comme nous l'avons mentionné, Seigneur, nous voulons vraiment refléter ce que nous avons reçu de toi, Seigneur, dans ce monde qui ne te connaît pas. Et en tant qu'individu aussi, nous voulons le faire, Seigneur, là, dans les endroits où tu nous as placés, que ce soit au travail, que ce soit dans les loisirs, que ce soit pendant les vacances. Nous voulons vraiment refléter. Seigneur, la lumière que tu as déposée en chacun de nous. Bénis ta parole ce matin, c'est au nom de Jésus que nous te demandons. Amen. Alors, quand on regarde le texte ce matin, il est écrit qu'il y avait une grande famine dans le pays, et Élisée, qui revenait de Gilgal, se trouvait en compagnie d'un collège de prophètes, nous dit le texte, qui regroupait une centaine de prophètes. Et voyant que ceux-ci étaient à court de nourriture, il va dire à son serviteur de les faire cuire. De leur faire cuire un potage. Il savait qu'il n'y avait rien à mettre dans le pot, puisqu'on était en période de famine, mais il suffisait qu'on mette le pot sur le feu et de croire que le Seigneur le remplirait. Quel homme de foi, ce Élisée, n'est-ce pas? Hein? Je me souviens, à Chicoutimi, au Québec, un père de famille qui avait plusieurs enfants, et bien, ils n'avaient rien à manger, la mère a placé les assiettes sur la table, je vous parle des années 87-88, a placé les assiettes sur la table, ils ont rendu grâce, et comme ils rendaient grâce, ils avaient rien à manger, comme ils rendaient grâce pour le repas que Dieu leur avait préparé. On sonnait à la porte et il y avait une grosse commande d'épicerie qui arrivait pour nourrir toute la famille. Pas merveilleux, ça? Alors, ça se passe pas juste dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Ça se passe pas juste à travers Georges Muller. Mais quand on prie par la foi, on voit Dieu accomplir des miracles, quoi. Des miracles qu'on n'espérerait même pas. Je sais pas jusqu'à quel point toute la famille avait confiance que Dieu répondrait immédiatement. Mais ils ont rendu grâce parce que la Bible dit que pour tous ceux qui vivent selon ce que Dieu demande, en conformité avec la parole de Dieu, eh bien, ils ne manqueront jamais de rien et que Dieu répond à leurs besoins. Vous êtes amen à ça ce matin? Hein? Alors, j'espère que ça vous encourage ce matin à continuer ou à commencer à vivre par la foi. Alors, Élisée savait qu'il n'y avait rien à mettre. On était dans un temps de famine. Alors, j'ai l'impression qu'il était plus le potage, ça devait être qu'un bouillon, quoi. Hein? Un bouillon coloré. Il ne devait pas avoir grand-chose dans cette marmite, dans ce pot qui devait chauffer. Mais il croyait que Dieu était fidèle à ses promesses et que Dieu remplirait le pot. Mais certains des jeunes qui se trouvaient sur place, le texte nous dit que certains des jeunes qui se trouvaient sur place n'avaient pas la même foi que le prophète Élisée. Alors, il est fort possible que ce soit à cause de cela qu'un autre serviteur va décider, nous dit le texte ici, verset 39, va décider de sortir dans les champs pour cueillir des herbes, afin de donner du goût probablement au potage. Et quoi qu'il en soit, les bonnes intentions de cet homme et son dévouement Eh bien, on le voit ici, ils n'ont fait qu'amener la mort dans le pot. Il avait cueilli non seulement des herbes, mais aussi des concombres sauvages qu'on ne connaissait pas. Il les avait coupés en morceaux dans le pot où était le potage, sans demander l'avis à qui que ce soit. Et les gens présents, ben, ils seront servis. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, nous dit le texte, « La mort est dans le pot ». Et c'est ainsi que la mort est entrée dans le pot par le biais, eh bien, de concombres sauvages qui ressemblaient à des légumes comestibles, mais qui, en réalité, paraissaient bonnes en apparence seulement. Il en est de même, frères et sœurs, avec nos bonnes intentions et nos coups de cœur, nous devons prendre le temps de les examiner afin de savoir s'ils viennent de Dieu ou s'ils ne viennent pas de lui, ou pas. Et cela nous évitera sûrement des désagréments ou des déceptions si jamais ces bons sentiments provenaient de notre nature humaine et non de l'Esprit de Dieu. La mort est dans le pot, bien plus souvent que nous pouvons l'imaginer, si nous la consommons sans y prêter une grande attention. Cette mort qui salit le cœur de l'homme et son entourage en utilisant sa bouche, parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur, dit Jésus. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à commettre des mauvaises actions de toutes sortes. Le tout est de savoir ce que contient non seulement le cœur de ceux que nous fréquentons, mais aussi ce que contient notre cœur. Et je pense que tout au long du culte, ce matin, c'est un peu ce qui a filtré, en fait. Alors, si c'est un cœur régénéré, eh bien, il n'en sortira que de bonnes choses qui contribueront à glorifier Dieu, à moins que ce cœur ait fait marche arrière en retournant à ce qu'il avait vomi. Je vais donc saisir l'occasion pour vous rappeler ce matin certaines des paroles de notre Seigneur au sujet de notre cœur qui laisse échapper, au sujet de notre cœur, du contenu de notre cœur qui laisse échapper les paroles de notre bouche. Je tiens à le répéter parce que ce qui sort de notre bouche, eh bien, c'est comme un baromètre, c'est comme aussi un thermomètre qui indique l'état général de notre cœur. Et ce matin, autour de la Sainte-Cène, juste avant le repas de la Sainte-Cène, notre frère Michael nous a rappelé dans quel esprit on prenait la Sainte-Cène. Et ce matin aussi, à travers ce texte, on va le voir, Dieu veut aussi qu'on puisse examiner la condition de notre cœur. Dans quel état se trouve notre cœur ce matin? Parce que Jésus dit que c'est la bouche de l'homme exprime ce dont le cœur est plein. C'est extraordinaire, cette parole-là. Hein? Souvent, on dit, mes paroles ont dépassé ma pensée. Non, c'est le trop plein qui est débordé, quoi. Dans le monde, on dit, excuse-moi, mes paroles ont dépassé ma pensée. C'est vrai? Non, on le dit, ça, hein? OK, rappelez-moi, je ne suis pas seul dans un monde et vous êtes à part, quoi. OK, on dit ça, hein? Mais en réalité, c'est des excuses, parce qu'on regrette d'avoir dit ce qu'on n'aurait pas dû dire, quoi. Mais Jésus va bien plus loin que ça, il va directement au cœur. Il dit, écoute, ce qui vient de sortir de ta bouche, c'est ce qui déborde. C'est le trop-plein de ton cœur. Alors, arrête de t'excuser, confesse ton péché, quoi. Ton cœur n'est pas en bon état, examine ton cœur n'est pas en bon état, quoi. Ça déborde. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 34. J'ajouterai encore les paroles de Jacques qui ont autant de valeur que celles du Seigneur, puisque c'est le même Saint-Esprit qui les a conduits à nous parler comme ils l'ont fait. Dans Jacques chapitre 1, verset 26, il dit, « Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas tenir sa langue, il se trompe lui-même, la religion de cet homme ne vaut rien. » Ne vaut rien. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez où je viens d'en venir ce matin, on a commencé avec un bol de soupe, hein, une marmite de soupe qui a chauffé, on a déposé quelqu'un dedans, on a déposé quelque chose dedans qui avait bonne apparence, mais finalement qui conduisait à la mort. Et frères et sœurs, souvent dans nos vies, on touche à des choses qui ont très très bonne apparence, et finalement, c'est le péché, et on laisse déposer ça dans nos cœurs, et finalement on ne rayonne plus comme on doit rayonner pour le Seigneur. Et plutôt que d'avoir cette bonne odeur agréable que le Seigneur nous demande d'avoir, on dégage une odeur de mort. Et on se demande pourquoi. Parce qu'on a laissé entrer le venin, le poison du serpent, dans le pot qui est notre cœur. Et on va voir ce qui va se passer ici pour que les gens ne meurent pas, pour que Dieu fasse un miracle. Parce que Dieu va encore faire un miracle dans chacune de nos vies, aujourd'hui. Alors, la première question qu'on pourrait se poser avant de continuer ce message, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre cœur à chaque jour? Est-ce que quelque chose qui va vraiment nous fortifier? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous maintenir en santé spirituelle? Ou ce qu'on laisse entrer dans notre cœur, c'est pas quelque chose qui est en train de provoquer une mort épouvantable dans nos vies, c'est-à-dire une coupure, c'est-à-dire nous faire perdre notre relation avec le Seigneur? Et peut-être que Dieu veut faire un miracle. Peut-être qu'il y en a qui vivent ça ce matin. Moi, je tiens à vous encourager de venir au trône de la grâce de Dieu. Parce que comme dans le cas, dans le temps d'Élisée, Dieu est capable encore de faire un miracle aujourd'hui. Ce potage qui était rempli de poison, eh bien, les gens vont tous y goûter après. Parce que Dieu va avoir accompli un miracle à travers la foi d'Élisée. Et tout est une question de foi pour que Dieu accomplisse encore un miracle dans vos vies ce matin. Si vous dégagez une odeur de mort, vous sentez cette odeur de mort en vous parce que vous avez laissé le péché y entrer, eh bien, ce matin, présentez-vous devant la croix du Seigneur. Confessez votre péché par la foi. Demandez-lui pardon. Et le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur va vous redonner cette vie. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que l'Église est l'antidote dont ce monde a besoin pour que le poison du péché qui est dans le cœur des gens, qui habite dans le cœur des gens, soit retiré miraculeusement par la main du Seigneur. Et c'est vous que Dieu veut utiliser pour ça. Vous êtes l'antidote dont ce monde a besoin. L'Église est l'antidote dont ce monde a besoin pour que le poison du péché qui habite dans le cœur des gens puisse être chassé par la foi, par ceux qui font partie du peuple de Dieu. Mais si vous êtes empoisonné vous-même, vous êtes incapable de produire cet effet-là chez les autres, puisque vous êtes aussi mort que ceux qui sont morts à l'extérieur. Et c'est pour ça que Dieu veut restaurer ceux qui ont laissé entrer du poison ce matin dans leur vie. Dieu veut restaurer, veut faire en sorte que ce que vous allez dire, ça va produire son fruit. C'est pas extraordinaire, ça. Un mort ne peut pas parler à un autre mort. Est-ce que vous êtes vivant, Jésus-Christ? Et Dieu, à travers vous, il va apporter une parole qui est vivante à tous ces gens qui sont morts spirituellement, qui ne connaissent pas le Seigneur, et qui sont coincés, qui sont maintenus morts par le poison du péché dans leur vie. Frères et sœurs, quelle grande responsabilité on a, et quel grand privilège aussi on a de pouvoir, à travers la parole de Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, chasser le poison qui habite dans le cœur des gens et le remplacer par la paix et la joie qui viennent du Seigneur Jésus. Vous dites amen à ça? À l'opposé des personnes qui parlent de tout et de rien, nous pouvons aussi présenter une autre catégorie de personnes qui, loin de parler à tort et à travers, ne disent rien comme cela arrive autant autour de certaines tables familiales où on a l'impression de prendre un repas dans un cimetière. Et là encore, quand on n'a rien à dire concernant un si grand salut, ce silence peut être compris comme un signe qui montre que la mort est dans le pot. Comme vous le constatez, la mort est bien plus souvent dans le pot qu'on pourrait le croire. Maintenant, je vais expliquer ce que je veux dire ici. Frères et sœurs, qui sait si par notre conduite, nous ne contribuons pas à développer dans nos foyers ou dans notre parenté cette mort dont parle ici Élisée. Qui sait si nous n'entreprenons pas par sa présence, par ce qui sort ou ne sort pas de notre bouche qui n'apporte jamais la vie. Les paroles peuvent être source de vie, de mort, nous dit l'auteur des Proverbes, Proverbes chapitre 18, verset 21. Est-ce que ce qui sort de notre bouche est une parole de vie ou est-ce que ce qui sort de notre bouche est une parole de mort? Nous avons tous une langue, n'est-ce pas? Qui n'a pas de langue ici ce matin? On a tous une langue, frères et sœurs. Alors nous avons tous le pouvoir de semer la vie ou la mort. Il n'y a pas d'entre-deux avec le Seigneur. Nous avons tous une langue, comment l'utilisons-nous? C'est une deuxième question que le Seigneur nous pose ce matin. Pensons aux membres de nos familles avec lesquels nous parlons régulièrement. Ces personnes qui sont toujours en route vers la perdition éternelle. Ces membres de la famille avec lesquels nous avons pris plaisir à partager les joies du monde, mais avec lesquels nous ne nous sommes pas aujourd'hui présenté le salut en Jésus-Christ, afin de leur donner l'occasion de partager sainement et éternellement les joies du ciel. Avouez qu'un tel comportement ne sert pas la gloire de Dieu, c'est même à se demander si nous connaissons ou si nous n'avons pas perdu la joie du salut qui nous a été accordé. Étant donné la peine que certains ont, ou la difficulté que certains ont à parler de leur Seigneur. Peut-être avez-vous constaté jusqu'à présent que c'est plutôt la mort que vous avez servi comme plat de résistance à votre entourage, étant donné le peu d'entrain que vous avez à témoigner de Jésus-Christ ou à vous exhorter les uns les autres. Si nous sommes dans cette situation, et je m'associe toujours à vous, c'est le temps de réagir et d'agir comme le fit Élisée. Notre indifférence, frères et sœurs, si elle se maintient, ne fera que confirmer que la mort est dans le pot et qu'elle agit, malgré qu'elle soit mélangée avec tout ce que nous avons entendu précédemment sur le royaume de Dieu et tout ce qui le concerne. Dans Galates, l'apôtre Paul dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Même s'il y a eu un bon départ, le mauvais qui a été ajouté a pollué tout le contenu. Et seule l'intervention miraculeuse du Seigneur peut changer la mort en vie. Voilà pourquoi, lorsque la mort a été découverte dans le pot, rien n'a été jeté. Avez-vous remarqué ça? Moi, c'est ce qui m'a surpris. C'est que lorsque Élisée a découvert que la mort était dans le pot, eh bien, il n'y a rien jeté. Et spirituellement parlant, ça me parle aussi parce que même si nous, on a l'impression qu'il y a une odeur de mort qui se dégage de nous, on peut avoir la certitude que Dieu ne nous rejette pas, ne nous rejette pas non plus. La mort est dans le pot. Et pourquoi Dieu ne nous rejette pas? Parce que pour Dieu, lorsqu'on revient au pied de sa croix, quand on revient, on lui demande pardon, on est toujours utilisable pour lui. Dieu veut toujours nous utiliser. Le problème, c'est que quand on laisse rentrer le poison dans notre cœur, c'est le malin qui agit simplement pour nous paralyser, simplement pour nous montrer qu'on est inutilisable pour le royaume de Dieu. Mais Dieu, pour Dieu, voilà pourquoi Dieu ne nous rejette jamais, c'est que pour Dieu, vous êtes toujours utilisable. Peu importe les dons que vous avez, peu importe où vous en êtes rendu avec le Seigneur, vous êtes toujours utilisable pour le Seigneur. Et ça me fait penser à ce que je lisais dans 2 Pierre 3:9, c'est que Dieu use de patience envers chacun de nous parce qu'il veut, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent au salut. Il veut que nous tous ici, nous parvenons dans ce royaume merveilleux qu'il est en train de nous préparer. L'apôtre Paul nous dit que nous étions morts à cause de nos offenses et de nos péchés. Et même si nous étions morts spirituellement, Dieu ne nous a pas rejetés. C'est ça qui est extraordinaire. Peu importe toutes les saletés qu'on faisait avant de le connaître, Dieu ne nous a pas rejetés. C'est pour ça qu'on peut dire que Christ est mort pour tous. Pas pour tous ceux qui étaient prédestinés à être sauvés, Christ est mort pour tous. Voilà pourquoi Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Pas tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés, qui doivent venir à la repentance. Dieu veut que tous soient sauvés. Vous dites amen à ça? Oui. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et ce quiconque, il est important. Ce quiconque, c'est n'importe qui. Peu importe la couleur de peau, peu importe la langue qu'il parle, peu importe les péchés qu'il a commis. Ce quiconque, il n'exclut pas personne. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le français courant, il est marqué « afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle », et ça, c'est une mauvaise traduction. Le mot « périr » est important ici parce que ça détermine qu'il y a une mort, qu'il y a une vie après la mort. Le mot « périr » dans le grec ici est très, très important. Mais que ne meure pas, ça fait penser uniquement à la mort physique. Mais je voulais juste simplement ouvrir une petite parenthèse pour le dire. Donc, lorsqu'on dit « car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle », le mourir ici, ça sous-entend uniquement la mort physique et pas la mort spirituelle. Mais quand on dit ne périt pas, c'est parce que il y a quelque chose après la mort, il y a une vie après la mort, avec Dieu ou sans Dieu. Alors ici, dans le texte, il était devenu nécessaire de trouver un antidote pour le poison, et Élisée n'a pas jeté le potage empoisonné, bien au contraire, il va prendre ce qu'il y avait de plus précieux en temps de famine. Il va demander qu'on lui apporte de la farine. Et pourquoi? Pour faire un nouveau potage, une soupe à la farine? Non. C'était pour la jeter dans le potage empoisonné. Verset 41. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot. Humainement parlant, est-ce que ça valait la peine de mettre quelque chose de bon dans ce qui est mauvais? Frères et sœurs, est-ce que ça valait la peine pour Dieu de mettre quelque chose en nous qui était mauvais, quelque chose de bon en nous qui était mauvais? C'est une bonne question à se poser, hein? Spirituellement parlant, est-ce que ça valait la peine? J'espère que vous dites tous oui ce matin. Parce que ce qui était mauvais, Dieu l'a transformé en quelque chose de bon. À travers le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché, Dieu va faire quelque chose de bon. Dieu va faire non seulement quelque chose de bon pour son royaume, Dieu va faire quelque chose d'utile pour son royaume, parce qu'il vous a donné à chacun des dons, pour vous, que vous les utilisiez pour l'avancement de son royaume. Je vous ai déjà dit que j'avais rencontré le frère Kim à Verviers quand j'étais dans l'armée du salut. On faisait une collecte une fois par année, on faisait tous les commerces et il nous donnait des dons pour la fête de la moisson. Parce que c'était quelque chose de très important, la fête de la moisson à l'armée du salut. C'était différent de ce qu'on a ici. On faisait venir des gens de l'extérieur, puis tout ce que les marchands nous avaient donné, eh bien les gens, on les vendait pour pouvoir amasser de l'argent pour enflouer la banque alimentaire. Et je vais chez le frère Kim, et il était boucher, mais il était surtout spécialisé dans le mouton. Et je rentre pour lui demander s'il voulait faire un don pour le, pour le poste, et il me dit, ben oui, mon frère, ben oui. Alors, quand il m'a dit mon frère, j'ai bien vu qu'il était chrétien. Alors, je lui demande où il va. Ah, il dit, je vais à l'assemblée d'arbitres ici à Verviers. Ah, oui, je lui parle. Et il m'a expliqué, en fait, la signification du sang. Et il y avait quelque chose que j'avais pas saisi dans, quand on dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce que c'est abstrait ou c'est concret pour vous, ça? C'est simplement une notion spirituelle. Moi, il m'a fait comprendre pour la première fois de ma vie qu'est-ce que ça voulait dire. Et il m'a expliqué que, comment vous appelez ça, vous ici, une tête fromagée, vous savez ce qui est gélatineux, là, c'est toutes sortes de morceaux de viande qu'on fait bouillir, et puis, comment? Non, il n'y a pas un autre nom, là, on coupe ça en tranches, c'est gélatineux, il y a des morceaux de viande là-dedans, c'est pas trop appétissant, quoi. Comment? Ah, une tête pressée, voilà. Nous, on appelle ça une tête fromagée au Québec. Il n'y a pas de fromage dedans, mais bon, on appelle ça une tête. Et il m'a dit comment il faisait pour fabriquer ça, comment il faisait pour enlever les impuretés. Il dit, tu sais, la viande qu'on met là-dedans, c'est pas trop appétissant, hein? C'est un petit peu un ramassé de tout, hein, qu'on a coupé. Bon, alors on met ça dans, je rentrerai pas dans les détails, quoi, tout ce qui m'est énuméré qui rentrait là-dedans, mais, et il m'a dit, ce qu'on fait, on fait bouillir. Et on amène à l'ébullition. Et il dit, tu sais comment on fait pour enlever les impuretés qu'il y a dans toutes ces... Vous savez ce que je veux dire? Alors, tout ce qu'il y a là-dedans, on prend du sang de l'animal, on le verse dans la marmite. Le sang a la propriété d'attirer toutes les impuretés à lui. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse reposer la marmite. Quand le liquide se refroidit, le sang il coagule, il durcit. Et qu'est-ce qu'on fait? On enlève le sang avec toutes les impuretés qu'il y a à l'intérieur, mais tout ce qui reste dans la marmite, c'est pur. Frère, ça... Jésus a versé son sang non seulement pour que vous receviez le pardon de vos péchés, mais aussi pour vous purifier. Ça veut dire quoi? Que toutes les saletés qu'il y avait dans votre cœur, toutes les meurtrissures qu'il y avait en vous, provoquées par la vie, il est aussi allé les chercher, il a sa capacité à aller les chercher. Voilà pourquoi Dieu vous donne un nouveau cœur. Voilà pourquoi Dieu vous permet un nouveau départ. Voilà pourquoi Dieu vous permet un nouveau commencement en lui. Vous avez été non seulement pardonné, mais vous avez été aussi purifié. Je ne sais pas si je vais le trouver ici, mais c'est ce qu'Isaïe dit. Isaïe dit qu'on a été qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'il a pris sur lui nos meurtrissures. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Jésus, écoutez, s'il est mort, ça ne donne rien de lui parler. Mais s'il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Les meurtrissures, les abus de toutes sortes que vous avez vécu dans votre passé. Il est assis à la droite de Dieu. Il ne veut pas seulement que vous entendiez que ça vous a fait de la peine, que ça vous a blessé. Il est à l'écoute et il veut que vous lui racontiez ce qui a fendu votre cœur, ce qui a brisé votre cœur, ce qui vous a empêché de marcher dans la vie. Il est là pour vous écouter. Il va vous donner, il a la solution. Et la solution, c'est le pardon. Souvent, on a des blessures incroyables parce qu'on n'a pas appris à pardonner. Et on traîne ça toute notre vie. On en veut à ceux qui nous ont fait du mal toute notre vie. On développe de l'amertume. On développe de la rancune. Et on finit par développer un cancer. Mais Jésus est là. Il n'est plus sur la croix. Il est à la droite de Dieu. Et toutes les meurtrissures que vous avez subies, tous les abus de toutes sortes, les injustices de toutes sortes que vous avez subies, ce n'est pas simplement de venir devant le trône de la grâce de Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon. Racontez-lui non seulement vos péchés un par un, mais racontez-lui aussi vos blessures, ce qui vous a fait mal. Et manquez d'amour avec vos parents, racontez-lui. Seigneur, j'ai jamais connu le véritable amour. Mes parents m'ont abandonné, Seigneur. Je ne sais pas ce que c'est un père, je ne sais pas ce que c'est une mère. Jésus va vous répondre. Seigneur, tu sais comment j'ai été abusé, comment ça m'a handicapé dans beaucoup de domaines. Racontez-lui dans tous les petits détails ce qui vous fait mal. Il est là pour vous écouter. La Bible dit qu'un des mots, le psalmiste dit qu'un des noms de Dieu... Dans la Bible, celui qui écoute nos prières, celui qui écoute nos prières, c'est un nom de Dieu. C'est pas extraordinaire? Parce que si vous laissez le Seigneur vous écouter, si vous laissez après le Seigneur vous parler, vous allez comprendre que la délivrance, elle se trouve dans le pardon. Dans le pardon. Vous êtes amen à ça? C'est important. La mort est dans le pot, la mort est dans le monde, la mort est dans nos familles, la mort est dans l'Église. Et si la mort est dans l'Église, c'est peut-être parce que nous sommes, c'est peut-être parce que vous, certains d'entre vous sont morts. Non pas morts à vous-même, mais morts ou en train de mourir quant aux choses de Dieu qui ne vous intéressent qu'occasionnellement. La mort est dans le pot, c'est une réalité. Cependant, plusieurs refusent qu'on y jette de la farine. Plusieurs refusent que le Seigneur coupe émonde et débarrasse de ce qui leur empêche de vivre la vie de Christ. Plusieurs pensent que ça va aller comme ça, qu'ils n'ont pas besoin de prendre à la lettre les enseignements bibliques qu'ils reçoivent semaine après semaine. La mort est dans le pot, mais on se rassure, même en pensant qu'il ne faut pas exagérer. S'il existe bien un petit goût d'amertume dans les relations fraternelles, si la parole de Dieu ne fait plus vibrer les cœurs comme autrefois, on se rassure à travers différentes pratiques religieuses, stériles, qui n'apportent rien ni à l'âme ni au corps de Christ. Tournez avec moi dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu es mort parce que comme les morts, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif et que tu ne te rends pas compte de l'heure qu'il est, tu es mort ou tu dors. Tu passes pour être vivant et tu dis, tu es mort, dit-il à l'église de Sardes. Tu passes pour être vivant et tu es mort, dit Jésus. Et en lisant le texte avec attention, on relève deux choses ce matin. Il n'est même pas question de faire revenir à la vie, ceux qui sont morts ici dans le texte. Il est question d'affermir ceux qui sont prêts de mourir afin qu'ils ne meurent pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sans doute, certains peuvent dire que Jésus s'adresse ici à l'église de Laodicée, cette église de la fin des temps, et qu'en conséquence, eh bien, ce qui concernait l'église de Sardes ne concerne pas la dernière église. Et pourquoi serions-nous nous-mêmes concernés? N'y a-t-il pas encore des morts, frères et sœurs, spirituellement dans l'église de Jésus-Christ? N'y a-t-il pas des frères et sœurs dans la foi qui sont au point de mourir et qui mourront très certainement si nous ne les exhortons pas, si nous ne tentons pas de ranimer leurs ailes pour le Seigneur? Soyons réalistes, frères et sœurs, beaucoup ont besoin que l'on jette de la farine dans leur vie. Ils n'arrivent plus à se nourrir de la bonne parole de Dieu. Certes, ils la lisent encore, mais elle n'a aucun effet sur eux. Ils ne changent pas. Pourquoi? N'est-ce pas parce que la mort, telle la gangrène, aurait commencé son œuvre de destruction et qu'à cause de son travail, certaines parties de leur cœur seraient devenues insensibles? Lorsque je regarde le chemin parcouru, le mien, je réalise que pendant une période de ma vie, la mort était dans le pot. Si rien n'avait été fait, si personne n'avait jeté de la farine, si personne ne m'avait exhorté pour que je reprenne goût à la vie avec Dieu, non seulement je ne me préoccuperais pas de votre âme ce matin, mais je ne préoccuperais même pas de la mienne non plus. La mort était dans le pot, et j'aurais continué à vivre comme si rien n'était. Aujourd'hui, je suis émerveillé de voir ce que Dieu peut faire avec une vie où la mort spirituelle semblait avoir repris ses droits. Je suis émerveillé de voir ce que la ténacité d'un frère en Christ a pu faire pour que je me nourrisse convenablement des bonnes choses que le Seigneur donne en abondance à ceux qui veulent venir ou revenir à lui de tout leur cœur. Élisée a eu suffisamment de foi pour obéir à l'Éternel et jeter cette farine dans la marmite, tout en sachant que la farine en elle-même n'avait aucun pouvoir purificateur. D'un autre côté, le serviteur ne discuta pas l'ordre d'Élisée lorsqu'il fallut servir la soupe de concombre additionné de farine. Tout le monde fit le pas de foi de manger le potage. Tout le monde eut confiance en Dieu et leur confiance fut récompensée par l'arrivée d'une abondante nourriture. Si la mort n'est pas dans le pot, ce dont je ne pourrais pas jurer en ce qui concerne notre Église, je dirais que c'est au moins l'ombre de la mort qui les a déjà refroidis. Je parle de certains. C'est vrai que c'est beau de parler de l'amour de Jésus-Christ, mais en tant que pasteur, je suis là aussi pour parler de la bonne marche de l'Église. Et c'est un message qui m'a interpellé ce matin. Le message, je suis interpellé. Frères et sœurs, le Seigneur, à travers ce passage, il veut nous rappeler que, dans les derniers versets, il veut nous rappeler que si la mort est dans notre peau, s'il y a du péché qui nous empêche de goûter bon, auprès des gens que nous rencontrons. Le Seigneur nous demande de nous approcher de lui par la foi ce matin et de lui permettre de faire ce nettoyage, de pouvoir jeter sa parole miraculeuse dans nos cœurs qui va nous purifier, qui va nous purifier de nos péchés. Il veut nous rappeler que son sang est encore efficace aujourd'hui pour nous purifier de tout péché. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus ennuyant pour un chrétien que de rien faire, que de rester à rien faire et d'attendre le royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus ennuyant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut vous utiliser. Parce que Dieu, ce n'est pas une vie ennuyante qu'il veut. Il ne vous a pas sauvé pour que vous meniez une vie ennuyante. Il vous a sauvé pour que vous meniez une vie excitante en Jésus-Christ. Cette vie, elle est excitante. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas tomber dans la routine quand vous allez de l'avant avec le Seigneur pour annoncer sa parole. Il y a des promesses. Non seulement vous allez voir Dieu accomplir des miracles, alors ça nous épanouit, mais vous allez avoir aussi à subir des persécutions parce que vous servez le Seigneur fidèlement. Et ça aussi, ça nous empêche de tomber dans la routine. Parce que quand on subit des persécutions, on est obligé de venir devant le trône de la grâce de Dieu et de crier à Dieu de nous protéger. Parce qu'on est démunis face à cette persécution, puisqu'on sait qu'elle est spirituelle, elle vient d'abord dans un milieu, elle vient d'abord dans un monde spirituel qui est mauvais. Frères et sœurs, Dieu, c'est une vie excitante qu'il veut vous confier. Quelque chose d'extraordinaire. Il ne veut pas que vous appreniez votre texte par cœur. Il ne veut pas que vous partiez avec une méthode particulière. Il veut simplement que vous alliez auprès des gens qui ne le connaissent pas et que vous partagiez la vie que Dieu a déposée dans le pot de votre cœur. C'est tout ce que Dieu veut. Et frères et sœurs, regardez les miracles. On aurait pu penser que c'est Jésus, que c'était limité juste à Jésus de multiplier la multiplication des pains. Mais que nous disent ici les versets? On termine avec ça. Que nous disent ici les versets 42 à 44? Il y a quelqu'un qui apporte 20 pains d'orge. On sait qu'ils sont plus de 100. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Et les dit, comme Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 12, donne. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme nous. Il fait comme les disciples de l'époque. Hey, Seigneur, il n'aura jamais assez. On a 20 son sang. Qu'est-ce qu'il dit ici? Comment pourrais-je en donner en 100 personnes? Mais il dit, donne à ces gens qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on aura de reste. Vous savez pourquoi Élisée avait un ministère puissant? Vous savez pourquoi Élisée voyait Dieu agir dans sa vie? Parce qu'il fonctionnait en fonction des promesses de la parole de Dieu. Donne, et tu vas voir que Dieu va pourvoir. Verset 44, il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel, les mêmes paroles que dans Jean chapitre 6. Frères et sœurs, on aurait pu croire que c'est uniquement préservé à Jésus, la multiplication des pains. Élisée l'a fait. On aurait pu croire que c'était uniquement réservé à Jésus de ressusciter les morts. Élie l'a fait. Et Dieu aujourd'hui veut que vous ressuscitiez des morts spirituels. Dieu veut que vous ameniez des morts spirituels à naître de nouveau spirituellement pour qu'ils fassent partie du royaume de Dieu. Mes amis, ce matin, qu'en est-il, frères et sœurs, de votre foi? Êtes-vous prêts à la mettre sur le feu dans une grande marmite dans l'attente d'une bénédiction? Le miracle de la marmite et celui des pains montrent que l'Église doit propager l'Évangile et faire confiance en Dieu pour voir la puissance de Dieu se manifester au milieu d'elle et dans ce monde. La foi fait ce qu'elle peut et attend que son Seigneur agisse parce qu'elle croit que Dieu est encore celui qui peut multiplier par 100 le fruit que produit l'Évangile. Est-ce que vous dites amen à ça ce matin? Alors on va se laisser là-dessus parce qu'il est assez tard. Mais que le Seigneur, qu'on puisse laisser le Saint-Esprit examiner nos cœurs et nous assurer qu'on ne laisse entrer aucun poison qui pourrait empêcher justement Dieu de nous utiliser et de multiplier par cent les paroles de bénédiction, les paroles de l'Évangile que nous transmettons à ceux qui ne le connaissent pas. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, ce matin, vraiment non seulement ouvrir nos oreilles, Seigneur, pour écouter ta parole, mais nous voulons aussi, Seigneur, ouvrir les oreilles de notre cœur. Seigneur, que nous pouvons comparer à un pot qui est rempli, Seigneur, de nourriture, de nourriture qui vient de toi, et pour nourrir, Seigneur, les affamés, pour nourrir ceux qui ont faim et soif de toi à l'extérieur, Seigneur, et qui ne te connaissent pas. Seigneur, ce matin, nous voulons laisser ton Saint-Esprit nous examiner, parce que s'il y a un quelconque poison que nous avons laissé entrer dans nos cœurs, Seigneur, nous te demandons de nous parler, de parler à nos cœurs et de nous permettre de l'identifier et dans le nom de Jésus de le chasser. Et que cela soit remplacé par ta parole. Ta parole qui est vivante, qui est nourrissante. Ta parole, Seigneur, qui donne la vie et non pas la mort. Seigneur, nous voulons en tant qu'Église, nous voulons manifester à travers le monde, à travers ceux que tu mets sur notre chemin. Nous voulons manifester la vie que tu as déposée dans notre cœur. Nous voulons aussi manifester cette espérance vivante que nous avons, à savoir de passer l'éternité avec toi. Seigneur, merci aussi parce que nous sommes convaincus que tu veux multiplier, Seigneur, le plus grand nombre possible, afin que, Seigneur, ton royaume puisse progresser, puisse grandir, et puisse, Seigneur, être l'antidote pour ce monde de mort, ce monde qui se perd, ce monde qui est perdu, Seigneur, parce qu'il ne te connaît pas. Bénis chacun ici présent ce matin, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pu se déplacer pour une raison quelconque. Et que nous soyons vraiment, Seigneur, d'une odeur agréable pour tous ceux que nous croisons et avec qui nous partageons ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.